pureté en Amérique. Un cercle vicieux analogue s'est perpétué dans la hiérarchie raciale de l'Amérique moderne. Du XVIe au XVIIIe siècle, les conquérants européens importèrent des millions d'esclaves africains pour les faire travailler dans les mines ou sur les plantations d'Amérique. Trois facteurs circonstanciels les amenèrent à importer des esclaves d'Afrique plutôt que d'Europe ou d'Asie de l'Est. Premièrement, l'Afrique était plus proche. Il était donc moins coûteux d'importer des esclaves du Sénégal que du Vietnam. Deuxièmement, il existait déjà en Afrique un commerce d'esclaves bien développé, exportant surtout des esclaves vers le Moyen-Orient, alors qu'en Europe, l'esclavage était très rare. De toute évidence, il était bien plus facile d'acheter des esclaves sur un marché existant que d'en créer un de toutes pièces. Troisièmement, et c'est l'élément le plus important, les plantations américaines de Virginie, d'Haïti ou du Brésil étaient infectées par la malaria, paludisme, et la fièvre jaune, originaire d'Afrique. Or, au fil des générations, les Africains avaient acquis une immunité génétique partielle à ces maladies, qui faisaient des ravages parmi les Européens totalement sans défense. Pour un planteur, il était donc plus sage d'investir dans un esclave africain que dans un esclave ou un travailleur sous contrat européen. Paradoxalement, la supériorité génétique, en termes d'immunité, se traduisit en infériorité sociale. Précisément, parce qu'ils étaient mieux adaptés aux climats tropicaux que les Européens, les Africains finirent comme esclaves de maîtres européens. En raison de ces facteurs circonstanciels, les nouvelles sociétés foisonnantes d'Amérique allaient être divisées en une caste dirigeante d'Européens blancs et une caste asservie de Noirs africains. Or, les gens n'aiment pas dire qu'ils gardent les esclaves de telle race ou de telle origine pour la simple raison que c'est économiquement expédient. Comme les conquérants ariens de l'Inde, les Européens blancs d'Amérique voulaient voir reconnue leur réussite économique, mais aussi passer pour des hommes pieux, justes et objectifs. Mythes religieux et scientifiques furent donc mis à contribution afin de justifier cette division. Des théologiens affirmèrent que les Africains descendaient de Cham, fils de Noé, maudit par son père qui lui promit une descendance d'esclaves. Des biologistes prétendirent que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs et leur sens moral moins développé. Des médecins assurèrent que les Noirs vivaient dans la crasse et propageaient des maladies. Autrement dit, ils étaient une source de pollution. Ces mythes touchèrent une corde sensible dans la culture américaine et plus généralement occidentale. Ils continuèrent d'exercer leur influence bien après que les conditions à l'origine de l'esclavage eurent disparu. À l'aube du XIXe siècle, la Grande-Bretagne impériale abolit l'esclavage et arrêta le trafic d'esclaves transatlantiques. Au fil des décennies suivantes, l'esclavage fut progressivement interdit sur tout le continent américain. En particulier, ce fut la première et seule fois de l'histoire que des sociétés esclavagistes abolirent l'esclavage. Alors même que les esclaves furent libérés, les mythes racistes justifiant l'esclavage persistèrent. Une législation et des usages sociaux racistes perpétuèrent la ségrégation. Il en résulta un cycle de causes et d'effets qui se renforça de lui-même, un cercle vicieux. Prenons l'exemple du sud des États-Unis au lendemain de la guerre de Sécession. En 1865, le 13e amendement de la Constitution interdit l'esclavage, et le 14e décida qu'on ne pouvait invoquer la race pour refuser à quiconque la citoyenneté et la protection égale de la loi. Toutefois, du fait de deux siècles d'esclavage, la plupart des familles noires étaient bien plus pauvres et bien moins instruites que la plupart des familles blanches. Un noir né en Alabama en 1865 avait donc bien moins de chances de recevoir une bonne éducation et de trouver un travail bien rémunéré que ses voisins blancs. Nés dans les années 1880-1890, ses enfants débutèrent avec le même handicap puisque né dans une famille pauvre et sans éducation. Mais tout ne se réduit pas au handicap économique. En Alabama vivaient également beaucoup de blancs pauvres, privés des chances offertes à leurs frères et sœurs de race, mieux pourvus. De plus, la révolution industrielle et les vagues d'immigration firent des États-Unis une société extrêmement fluide, où les guenilles pouvaient aisément se transformer en richesses. Si l'argent avait été la seule chose qui compta, la division tranchée entre les races aurait au fait de se brouiller, ne serait-ce qu'à travers les mariages mixtes. Or, il n'en fut rien. En 1865, les Blancs, comme beaucoup de Noirs, voulurent croire que, de fait, les Noirs étaient moins intelligents, plus violents et plus lubriques, plus paresseux et moins soucieux d'hygiène personnelle que les Blancs. Ils étaient donc des agents de violence, de vol ou de viol et de maladie, en un mot, de pollution. Si, en 1895, un Noir d'Alabama parvenait miraculeusement à recevoir une bonne éducation, puis sollicitait une place respectable de caissier dans une banque, ses chances d'être accepté étaient très inférieures à celles d'un candidat blanc aux mêmes qualifications. Jouait contre les Noirs le stigmate qui faisait d'eux des êtres naturellement peu fiables, paresseux et moins intelligents. On aurait pu croire que les gens comprendraient progressivement que ces stigmates n'étaient qu'un mythe et que le temps passant, les Noirs pourraient prouver qu'ils étaient aussi compétents, respectueux de la loi et propres que les Blancs. En réalité, c'est le contraire qui se produisit. Les préjugés ne firent que s'enraciner. Les meilleurs emplois étant entre les mains des Blancs, il devint plus facile de croire que les Noirs étaient réellement inférieurs. « Vous voyez bien ?» observait le blanc moyen. « Cela fait des générations que les Noirs sont libres. Et il n'y a pour ainsi dire pas de professeurs, d'avocats, de médecins, ni même de caissiers noirs. N'est-ce pas la preuve que les Noirs sont tout simplement moins intelligents et moins travailleurs ?» Piégés dans ce cercle vicieux, les Noirs n'étaient pas recrutés à des postes de col blanc parce qu'ils étaient réputés inintelligents. La preuve de leur infériorité ? Il y avait très peu de Noirs à des postes de col blanc. Le cercle vicieux ne s'est pas arrêté là. Les stigmates anti-noirs se renforçant, ils se traduisirent en un système de lois et de normes dit « Jim Crow », destiné à préserver l'ordre racial. Interdiction était faite aux Noirs de voter, d'étudier dans les écoles blanches, d'aller dans les magasins, les restaurants ou les hôtels fréquentés par des Blancs. La justification était toujours la même. Les Noirs étaient immondes, paresseux et vicieux, si bien qu'il fallait en protéger les Blancs. Par peur de la maladie, les Blancs ne voulaient pas dormir dans les mêmes hôtels que les Noirs, ni manger dans les mêmes restaurants. Ils ne voulaient pas que leurs enfants apprennent dans la même école que les Noirs, par peur de la brutalité et des mauvaises influences. Ils ne voulaient pas que les Noirs votent, puisqu'ils étaient ignares et immoraux. Ces peurs pouvaient se prévaloir d'études scientifiques, qui prouvaient que les Noirs étaient effectivement moins éduqués, que diverses maladies étaient plus répandues parmi eux et que le taux de criminalité était bien plus élevé. Ces études feignant d'ignorer que ces faits résultaient de la discrimination contre les Noirs. Au milieu du XXe siècle, la ségrégation dans les anciens États confédérés était probablement pire qu'à la fin du XIXe siècle. Clennon King, l'étudiant noir qui voulut entrer à l'université du Mississippi en 1958, fut interné de force dans un asile psychiatrique. Le juge trancha qu'un noir était forcément fou s'il imaginait pouvoir y être admis. Rien ne révoltait davantage les gens du Sud et beaucoup de gens du Nord que les relations sexuelles et les mariages entre noirs et blanches. Les relations sexuelles interraciales devinrent le tabou suprême. Toute violation, réelle ou supposée, méritait un châtiment immédiat et expéditif sous la forme d'un lynchage. Société secrète de défense de la suprématie blanche, le Ku Klux Klan multiplia les exécutions de ce genre. Ils auraient pu en remontrer aux brahmins hindous sur les lois de pureté. Avec le temps, le racisme gagna de plus en plus de domaines culturels. La culture esthétique américaine fut construite d'étalons de beauté blanc. Les attributs physiques de la race blanche, par exemple la peau claire, les cheveux raides et blonds et un petit nez retroussé, devinrent le canon de la beauté. Les traits typiques des Noirs, peau noire, cheveux noirs et crépus, nez aplati, étaient réputés laids. Ces préjugés enracinèrent la hiérarchie imaginaire à un niveau de conscience humaine encore plus profond. De tels cercles vicieux peuvent durer des siècles, voire des millénaires, prolongeant une hiérarchie imaginaire née d'un événement historique aléatoire. Loin de s'atténuer, les discriminations injustes empirent souvent avec le temps. L'argent va à l'argent, la pauvreté entretient la pauvreté. L'éducation profite à l'éducation, l'ignorance perpétue l'ignorance. Les victimes de l'histoire ont toutes les chances d'être de nouveau victimisées, et les privilégiés de l'histoire ont toutes les chances d'être à nouveau privilégiés. la plupart des hiérarchies sociopolitiques manquent d'une base logique ou biologique. Elles ne font que perpétuer des hasards entretenus par des mythes. C'est une bonne raison d'étudier l'histoire. Si la division en noirs et blancs, ou brahmines et sudras, s'enracinait dans des réalités biologiques, si les brahmines avaient vraiment de meilleurs cerveaux que les sudras, la biologie suffirait pour comprendre la société humaine. Comme les distinctions biologiques entre les différents groupes d'Homo sapiens sont en fait négligeables, la biologie ne saurait expliquer ni les complications de la société indienne, ni la dynamique raciale de l'Amérique. Nous ne saurions comprendre ces phénomènes qu'en étudiant les événements, les circonstances et les rapports de force qui transformèrent les caprices de l'imagination en structures sociales cruelles et bien réelles. Lui et elle. Les différentes sociétés adoptent des hiérarchies imaginaires de nature différente. Si la race est très importante pour les Américains modernes, elle était relativement insignifiante pour les musulmans du Moyen-Âge. Dans l'Inde médiévale, la caste était affaire de vie et de mort, alors qu'elle est quasi inexistante dans l'Europe moderne. Dans toutes les sociétés humaines, il était cependant une hiérarchie d'une importance suprême, la hiérarchie des sexes ou des genres. Les gens étaient partout divisés en hommes et en femmes. Et partout, les hommes ont eu la meilleure part, au moins depuis la révolution agricole. Parmi les textes chinois les plus anciens, se trouvent des eaux oraculaires datant de 1200 avant notre ère et employées à des fins de divination. Sur l'un d'eux était gravée la question « La grossesse de Dame Ao sera-t-elle heureuse ?» Suivait cette réponse « Si l'enfant naît un jour Ding, heureuse, un jour Geng, très favorable. » Or, Dame Ao devait accoucher un jour Yayin. Le texte se termine par une observation morose. 3 semaines et 1 jour plus tard, jour Yayin, l'enfant est né. Pas de chance. Une fille. Plus de 3000 ans après, quand la Chine communiste mit en œuvre sa politique de l'enfant unique, beaucoup de familles chinoises tenaient encore la naissance d'une fille pour un malheur, au point, parfois, d'abandonner ou de tuer les filles à la naissance pour essayer d'avoir un garçon la fois suivante. Dans beaucoup de sociétés, les femmes étaient purement et simplement la propriété des hommes, le plus souvent de leur père, de leur mari ou de leur frère. Dans beaucoup de systèmes juridiques, le viol entre dans la catégorie des violations de propriété. Autrement dit, la victime n'est pas la femme qui est violée, mais le mâle qui la possède. Dès lors, le remède prévu par la loi était un transfert de propriété. Le violeur devait payer le prix d'une épouse au père ou au frère de la femme, sur quoi elle devenait la propriété du violeur. La Bible décrète ainsi. Si un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, s'en empare et couche avec elle, et qu'on les prend sur le fait, alors l'homme qui a couché avec la jeune fille donnera au père de celle-ci 50 cycles d'argent. Puisqu'il l'a possédée, elle sera sa femme. Deutéronome, versets 22, 28 et 29. Les anciens Hébreux estimaient l'arrangement raisonnable. Violer une femme qui n'appartenait pas à un homme n'était pas considéré comme un crime, de même que ramasser une pièce perdue dans une rue passante n'était pas un vol. Un mari qui violait sa femme ne commettait pas de crime. De fait, l'idée qu'un mari pût violer sa femme tenait de l'oxymore. Être un mari, c'était être le maître absolu de la sexualité de son épouse. Dire qu'un mari violait sa femme était aussi illogique que dire qu'il volait son propre portefeuille. Cette façon de penser n'était pas l'apanage du Moyen-Orient ancien. En 2006, on dénombrait encore 53 pays où un mari ne pouvait être poursuivi pour le viol de sa femme. Même en Allemagne, la législation n'a été amendée qu'en 1997 pour créer une catégorie de viol conjugal. La division en hommes et femmes est-elle un produit de l'imagination comme le système des castes en Inde et le système des races en Amérique, ou s'agit-il d'une division naturelle avec de profondes racines biologiques? Et si c'est bien une division biologique, y a-t-il aussi des explications biologiques à la préférence donnée aux hommes sur les femmes? Une partie des disparités culturelles, juridiques et politiques entre hommes et femmes reflète les différences biologiques évidentes entre les sexes. Mettre les enfants au monde a toujours été le travail des femmes, parce que les hommes n'ont pas de matrice. Autour de ce noyau universel, pourtant, chaque société accumula couche sur couche des idées et des normes culturelles qui n'ont pas grand-chose à voir avec la biologie. Les sociétés associent à la masculinité et à la féminité une multitude d'attributs qui, pour la plupart, n'ont pas de base biologique solide. Dans la démocratie athénienne du 5e siècle avant notre ère, par exemple, un individu possesseur d'un utérus n'avait pas de statut juridique indépendant, et interdiction lui était faite de participer aux assemblées populaires ou d'être juge. À de rares exceptions près, cet individu ne pouvait bénéficier d'une bonne éducation, ni se lancer dans les affaires ou dans un discours philosophique. Aucun des dirigeants politiques d'Athènes, aucun de ces grands philosophes, orateurs, artistes ou marchands n'avait de matrice. Avoir une matrice rend-il biologiquement inapte à ses professions? Les anciens Athéniens le pensaient. Les Athéniens modernes n'en croient rien. À Athènes de nos jours, les femmes votent, sont élues à des fonctions publiques, font des discours, conçoivent toutes sortes de choses, bijoux, bâtiments ou logiciels, et vont à l'université. Leur utérus ne les empêche pas de faire ces choses avec autant de succès que les hommes. Certes, elles demeurent sous-représentées en politique et dans les affaires. Le Parlement grec ne compte que 12% de femmes. Mais il n'existe pas d'obstacle légal à leur participation à la vie politique. Et la plupart des Grecs modernes estiment tout à fait normal qu'une femme assume des responsabilités publiques. Beaucoup de Grecs modernes pensent aussi que l'attirance sexuelle vers les seules femmes est partie intégrante de la virilité et qu'un homme ne doit avoir de relations sexuelles qu'avec le sexe opposé. Ils y voient non pas un travers culturel, mais une réalité biologique. Les relations entre personnes de sexe opposé sont naturelles. Entre deux personnes de même sexe, elles sont contre nature. En réalité, cependant, Mère Nature se soucie comme d'une guigne que deux hommes soient sexuellement attirés l'un par l'autre. Ce sont les mères humaines, imprégnées d'une culture particulière, qui font une scène si leur fils a une aventure avec le garçon d'à côté. Les crises maternelles ne sont pas un impératif biologique. À commencer par la Grèce ancienne, un nombre significatif de cultures humaines ont jugé les relations homosexuelles non seulement légitimes, mais socialement constructives. L'Iliade ne signale pas que Thétis ait eu la moindre objection aux relations de son fils Achille avec Patrocle. La reine Olympias de Macédoine, l'une des femmes de tempérament les plus énergiques du monde antique, aurait même fait tuer son mari. En revanche, elle n'eut pas la moindre crise quand son fils Alexandre le Grand ramena à dîner son amant Héphaestion. Comment distinguer ce qui est biologiquement déterminé de ce que l'on cherche simplement à justifier à travers des mythes biologiques? La biologie permet, la culture interdit, est une bonne règle empirique. La biologie est disposée à tolérer un très large spectre de possibles. C'est la culture qui oblige les individus à en explorer certains tout en interdisant d'autres. La biologie permet aux femmes d'avoir des enfants, mais certaines cultures les obligent à réaliser cette possibilité. La biologie permet aux hommes de goûter ensemble aux joies du sexe. Certaines cultures leur interdisent d'en profiter. La culture a tendance à prétendre qu'elle interdit uniquement ce qui est contre nature. Dans une perspective biologique, cependant, rien n'est contre nature. Tout ce qui est possible est aussi naturel par définition. Un comportement réellement contre nature, qui va contre les lois de la nature, ne saurait tout simplement exister en sorte qu'il ne nécessiterait aucune interdiction. Aucune culture ne s'est jamais donné la peine d'interdire aux hommes de photosynthétiser, aux femmes de courir plus vite que la vitesse de la lumière ou aux électrons négatifs d'être attirés l'un par l'autre. En vérité, nos idées de ce qui est naturel et contre nature ne viennent pas de la biologie, mais de la théologie chrétienne. Théologiquement, est naturel ce qui est en accord avec les intentions du Dieu qui a créé la nature. Selon les théologiens chrétiens, Dieu a créé le corps humain, entendant que chaque membre et chaque organe servent une fin particulière. Si nous nous servons de nos membres et de nos organes aux fins envisagées par Dieu, c'est une activité naturelle. Les utiliser autrement est contre nature. En revanche, l'évolution n'a pas de dessein. L'évolution des organes n'a pas suivi un dessein et leur usage est en perpétuel mouvement. Il n'est pas un seul organe du corps humain qui fasse uniquement le travail que faisait son prototype à son apparition, voici des centaines de millions d'années. Les organes évoluent afin de remplir une fonction particulière, mais dès lors qu'ils existent, ils peuvent être aussi adaptés à d'autres usages. La bouche, par exemple, est apparue parce que les tout premiers organismes multicellulaires avaient besoin d'un moyen d'ingurgiter des nutriments. Nous nous servons encore de notre bouche à cette fin, mais aussi pour embrasser, parler et, si nous sommes un Rambo, dégoupiller les grenades à main. Tous ces usages sont-ils contre nature pour la simple raison que, voici 6 millions d'années, nos vermisseaux d'ancêtres ne faisaient rien de tout cela avec leur bouche? De même, les ailes ne sont pas apparues du jour au lendemain dans toute leur gloire aérodynamique. Elles se sont développées à partir d'organes qui avaient une autre fin. Suivant une théorie, les ailes des insectes se sont développées, voici des millions d'années, à partir des protubérances de bestioles sans ailes. Les insectes, pourvus de bosses, avaient une surface plus grande que les autres, ce qui leur permettait d'absorber davantage la lumière du soleil et de rester plus chaud. Au fil d'un lent processus évolutif, ces radiateurs solaires virent leur taille augmenter. Par un fait du hasard, cette même structure propice à l'absorption d'un maximum de lumière solaire, grande surface, poids léger, donnait aussi de l'élan aux insectes qui voulaient sauter. Plus grosse était la protusion, plus loin ils sautaient. Certains insectes commencèrent à s'en servir pour faire du vol plané. De là aux ailes qui pourraient les propulser dans les airs, il n'y avait qu'un petit pas. La prochaine fois qu'un moustique vrombira à vos oreilles, accusez-le de comportement contre nature. S'il se conduisait bien et se contentait de ce que Dieu lui a donné, ses ailes ne lui serviraient que de panneaux solaires. Le même genre de polyvalence vaut pour nos organes et notre comportement sexuel. Le sexe a d'abord évolué pour la procréation et les rituels de cour, histoire de jauger l'aptitude d'un partenaire en puissance. Mais beaucoup d'animaux s'en servent désormais à une multitude de fins sociales qui n'ont pas grand-chose à voir avec la création de petites copies d'eux-mêmes. Les chimpanzés, par exemple, se servent du sexe pour sceller des alliances politiques, instaurer une intimité et désamorcer des tensions. Est-ce contre nature ?